France Culture.
Et le journal, c'est avec vous, Anne Fauquemberg. Bonjour Anne.
Bonjour Chloé, bonjour à tous. Ils feront partie des premiers réfugiés climatiques. Plus de 80% des habitants de l'archipel des Tuvalu dans le Pacifique sont candidats au départ pour l'Australie. Un accord de migration a été scellé avec Canberra. Explication de Noé Perret au début de ce journal.
Nous serons également en direct de Bruxelles, où l'accord commercial entre les États-Unis et le Japon de la nuit dernière donne de l'espoir aux Européens. À quelques jours de la mise en place des surtaxes réciproques voulues par Donald Trump.
Plusieurs milliers d'Ukrainiens ont bravé les risques pour manifester hier soir à Kiev. Ils sont inquiets par une loi destinée à accroître le pouvoir de l'exécutif sur les organismes anti-corruption du pays. Reportage à suivre de Bastien Boris.
En France, le parquet national financier rejette les accusations de Rachida Dati contre les magistrats après son renvoi en correctionnel hier. Nous entendrons l'analyse du premier syndicat de magistrats, l'USM.
Enfin, retour sur l'héritage laissé par Ozzy Osbourne à la fin de ce journal. La légende du heavy metal s'est éteinte hier après avoir irrigué de nombreux genres musicaux. Alors que la Cour internationale de justice doit rendre un avis majeur sur la justice climatique cet après-midi, un petit archipel du Pacifique, les Tuvalu, concentre toutes les attentions ce midi. 80% de ses habitants demandent un visa pour l'Australie afin de fuir la montée des eaux. Les deux pays avaient signé un accord de migration climatique l'an passé. Les précisions de Noah Perry.
Situé à 3500 km des côtes australiennes, l'archipel de Tuvalu est menacé de submersion totale à la fin de ce siècle. 3 mètres seulement séparent le territoire du niveau des eaux du Pacifique. Face à ce constat, l'Australie s'est engagée à délivrer des visas climatiques exceptionnels aux 11 000 habitants de l'archipel. Et les demandes se sont accélérées ces dernières semaines. À l'heure actuelle, 8 750 Tuvaluans ont confirmé leur demande de visa. Toutefois, l'Australie s'est engagée à accueillir 280 habitants de Tuvalu par an. Canberra a donc prévu d'organiser un tirage au sort dans les prochains jours. Les Tuvaluans retenus pourront dès lors s'installer de manière permanente en Australie. Mais avant de partir, et surtout avant que ces 9 petits atolls de l'archipel ne disparaissent, les Tuvaluans ont engagé une sauvegarde numérique de chaque recoin du territoire. Une façon de sauver ce pays de l'oubli en façonnant une réplique virtuelle alors que ses habitants s'apprêtent à le quitter définitivement.
Explication de Noah Perret pour France Culture. Les principales bourses européennes ont ouvert à la hausse ce matin dans le sillage des places asiatiques un peu plus tôt. Les investisseurs ont ainsi salué l'accord commercial entre les États-Unis et le Japon signé la nuit dernière. Le président américain Donald Trump a annoncé que le Japon ne payerait que 15% de droits de douane aux États-Unis, bien en deçà de la surtaxe de 25% dont l'archipel était menacé au 1er août. Le 1er août, Washington entend en effet imposer de massives surtaxes dites réciproques. Fabien Cazot, bonjour.
Bonjour.
Fabien Cazot, vous êtes le correspondant permanent de France Culture à Bruxelles. Ce projet de surtaxe réciproque inquiète toujours les Européens.
Oui, ils vont regarder de près l'accord signé entre les États-Unis et le Japon cette nuit, le résultat d'un compromis obtenu de haute lutte auquel pourrait ressembler un éventuel accord proposé à la signature des 27. Certes, dans cet accord, les droits de douane applicables à l'ensemble des marchandises japonaises importées aux États-Unis sont ramenés à 15%, mais dans le détail des secteurs les plus exposés, certains, comme l'acier, restent taxés à hauteur de 50%, un taux jugé prohibitif en Europe par la Commission européenne et par les États membres, dont la France, qui demande à la Commission plus que jamais de se montrer ferme face à l'administration Trump. C'est devenu un des objectifs centraux de ces derniers jours de négociations côté européen, déminer le plus possible le terrain pour certains secteurs jugés stratégiques. Les industries pharmaceutiques ou aéronautiques menacent déjà, à mots plus ou moins couverts, de délocaliser outre-Atlantique une partie de leur production. C'est tout l'enjeu qui fait débat à mesure qu'approche la date fatidique du 1er route. Faut-il accepter un accord asymétrique avec les États-Unis qui a certes l'avantage d'apporter un peu de visibilité, mais qui pourrait mettre en péril des pans entiers de l'industrie européenne? Un dilemme qui reste entier à 8 jours du terme prévu des négociations. De nouveaux échanges doivent d'ailleurs se tenir cet après-midi.
Explication de Fabien Cazot en direct de Bruxelles. L'Union européenne se dit aussi profondément préoccupée par le vote hier en Ukraine d'une loi supprimant l'indépendance des instances anticorruption Une loi qui a été adoptée au lendemain de l'arrestation contestée d'un responsable travaillant dans l'une de ces structures. Une partie des Ukrainiens est opposée à cette initiative, à tel point que plusieurs milliers d'entre eux sont sortis dans la rue malgré les risques hier soir. C'est un reportage à Kiev de Bastien Bory.
Le mot « veto » s'entend sur toutes les lèvres et se lit sur toutes les pancartes. Car hier, au Parlement ukrainien, de vieilles élites corrompues ont fait plier l'exécutif qui concentrera désormais l'essentiel des compétences en matière de lutte anticorruption.
Nous resterons debout et nous allons exiger de nouvelles mesures. Vous n'imaginez pas à quel point les gens sont fatigués.
La société que vous voyez là ne se laissera pas faire. Il est évident que le pouvoir est en train de nous tester et de vous tester. Maintenant, les autorités attendent simplement de voir quelle sera la réaction des gens.
Jusqu'à tard dans la nuit, près de 2000 personnes ont foulé les pavés du centre-ville. Presque tous dans la vingtaine, ces manifestants ont été rejoints par quelques sexagénaires bien au fait du problème de corruption en Ukraine et des motifs parfois fallacieux invoqués pour affaiblir certaines institutions démocratiques.
Dans notre pays, le business n'est pas séparé de la politique. Tout se confond et le mélange entre la politique et l'argent est à la base de la corruption.
Les manifestations continueront de grandir. Nous voulons vivre dans un pays normal, avec des lois. Personne ne veut vivre dans le pays le plus corrompu d'Europe.
Après les pressions immédiates de l'Union européenne hier, Volodymyr Zelensky a voulu rassurer. Tous les organes anticorruption en Ukraine continuent, selon lui, de fonctionner normalement.
Le reportage de Bastien Bory à Kiev. Le procureur du parquet national financier qui a renvoyé Rachida Dati en correctionnel hier pour corruption et trafic d'influence réaffirme son soutien et sa confiance envers l'ensemble des magistrats du PNF ce midi. Jean-François Bonnert rejette en effet les accusations de la ministre contre la justice. Elle a pu librement, comme tout justiciable, faire valoir ses droits tout au long de la procédure judiciaire, explique-t-il dans un communiqué. Plusieurs voix s'élèvent ce midi en réaction à l'interview de Rachida Dati sur LCI hier soir. Revenant sur ses propos, Ludovic Fria, le président de l'USM, le premier syndicat de magistrats, rappelle qu'en sa qualité de ministre, Rachida Dati ne peut pas tout dire.
Est-ce que c'est Rachida Dati, la justiciable, qui effectivement peut et légitime exprimer une critique par rapport à ses juges et par rapport à l'instruction, ou est-ce que c'est Rachida Dati, la femme politique? Et là, ça pose un problème beaucoup plus aigu, puisque c'est une femme politique qui a été ministre de la Justice, qui est actuellement ministre, qui jette l'opprobre sur les magistrats, et qui finalement laisse à penser à nos concitoyens que les magistrats ne sont pas des arbitres du débat judiciaire, mais sont des ennemis politiques qu'il faudrait abattre. C'est une façon d'abîmer, à mon sens, un peu plus l'état de droit. De plus en plus, le politique souhaiterait que le juge soit, on va dire, quelque part cantonné, comme une espèce de camisole de force qui l'empêcherait de pouvoir faire son métier et surtout faire son métier lorsque celui-ci dérange certaines personnes.
Vous considérez que c'est une tendance lourde actuellement ?
C'est clairement un discours qu'on entend trop souvent et qui, à terme, a pour ambition, me semble-t-il, de réduire l'autorité judiciaire en ce qu'elle constitue un contre-pouvoir et qu'elle constitue également l'arbitre nécessaire démocratique de notre société. Clairement, ça nous paraît dangereux, puisque notre état de droit et nos sociétés est fondé notamment sur une règle de séparation des pouvoirs qui fait que chacun des pouvoirs vient limiter l'autre et poser des règles démocratiques, des règles républicaines qui ont été votées par les députés et par les assemblées et que les juges ne font somme toute qu'appliquer.
Des propos recueillis par Florence Sturm. Rachida Dati a fait appel de son renvoi en correctionnel. Parmi les réactions politiques, le Parti Socialiste demande la démission de la ministre qualifiée de voyou. À droite, une fois de plus, Bruno Retailleau déclenche la colère du camp présidentiel. Dans une interview à l'hebdomadaire ultra-conservateur Valeurs Actuelles, le ministre de l'Intérieur et patron du parti Les Républicains décrète la fin du macronisme. Il explique que ce n'est ni un mouvement politique, ni une idéologie et que le « en même temps » alimente l'impuissance. Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour.
De quoi irriter les soutiens du président, d'autant plus que Bruno Retailleau n'en est pas à son coup d'essai.
L'ambiance était plutôt bonne, jura à l'instant la porte-parole du gouvernement en sortie de Conseil des ministres, mais ces propos de Bruno Retailleau en récidive, effectivement, ont du mal à passer. Auprès de l'aile gauche macroniste, d'abord, Clément Beaune, haut commissaire au plan sur France 2.
Il y a quand même des principes qui devraient être assez simples. Quand on est nommé par le président de la République, on n'attaque pas le président de la République. On peut être en désaccord, on peut exprimer des sensibilités, mais on respecte l'institution présidentielle. On a quand même, pardon, mais si on ne prend pas de recul sur tout ça, un débat public qui part complètement en cacahuète.
Et même les macronistes plus à droite se démarquent. Le ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, est élu sur France Inter ce matin.
Il faut qu'on se respecte. On peut avoir des coalitions avec des expressions différentes, mais encore une fois, qu'il faut qu'on respecte là d'où on vient, l'histoire de chacun, l'identité de chacun, et puis je pense aussi qu'il se trompe.
Plusieurs ministres macronistes embrayent et des piliers du camp présidentiel à l'Assemblée suggèrent à Bruno Retailleau de partir s'il est si mal à l'aise avec le président. Mais côté les Républicains, on minimise, on n'est pas sur un scoop, insiste sur France Info le secrétaire général des LR, Othmane Nasrou.
Mais il n'y a rien de nouveau. J'ai l'impression que certains s'étonnent que des ministres de droite soient de droite. Nous n'avons jamais cru au « en même temps ». Le « en même temps » a conduit à une forme d'immobilisme, parce que quand vous voulez être à la fois de droite et de gauche, vous ne choisissez pas un cap politique clair. Nous l'avons toujours dit, nous avons toujours pensé que c'était une impasse.
L'impasse a permis le retour des LR au gouvernement, qui lui-même a fait renaître dans le parti l'espoir d'un retour aux manettes, seul en 2027. Et alors qu'Emmanuel Macron devra effectivement tourner la page, la droite, qui a accepté de partager le pouvoir, n'entend pas en assumer l'héritage.
Compte rendu signé Rosalie Lafarge. La nuit s'est bien passée à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieux. Après l'arrivée des 17 premiers détenus faisant partie des 100 narcotrafiquants devant en rejoindre à terme le centre pénitentiaire. Détenus du haut du spectre, jugés particulièrement dangereux, les surveillants pénitentiaires ont été spécialement formés à cette spécificité de la criminalité organisée avant de les accueillir. C'est ce qu'explique le secrétaire local de l'UFAP, UNSA, qui souhaite rester anonyme.
Les personnels du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ont une forte expérience. Ils ont reçu une formation de sensibilisation à la criminalité organisée, donc on les apprend à appréhender les gestions de crise et de connaître un petit peu leur mode d'organisation au sein des différents réseaux, donc les personnels sont prêts pour ça, quoi.
Et comment évitez-vous notamment tout risque de corruption, parce que ce sont souvent des détenus qui ont des gros moyens financiers à l'extérieur?
Les personnels ont reçu également une sensibilisation au risque corruptif et les détenus seront toujours accompagnés de 3 personnels afin de réduire justement les risques corruptifs, car il est bien plus compliqué de corrompre des agents lorsqu'ils sont à 3 plutôt que lorsque le détenu est face à un seul agent pénitentiaire.
Vous êtes payé plus d'ailleurs pour ces missions de haute sécurité?
Écoutez, nous sommes toujours dans l'attente d'un retour de Bercy. L'administration pénitentiaire a fait une demande en ce sens d'une prime de 150 euros mensuels. Et nous sommes dans l'attente d'un retour de Bercy.
Des propos recueillis par Marie Bernardo sur France Info. Le parquet de Paris a de nouveau requis contre l'acteur Gérard Depardieu un procès pour viol et agression sexuelle sur la comédienne Charlotte Arnoux. Les premières réquisitions en ce sens et qui dataient de 2024 n'étaient plus valides pour des raisons procédurales. La reprise du dispositif MaPrimeRénov' est repoussée de 15 jours. Ce ne sera pas avant le 30 septembre prochain, annonce de la ministre du Logement Valérie Létard, qui était en réunion hier avec l'ensemble des acteurs de la filière de la rénovation. Les réactions à la mort d'Ozzy Osbourne, le chanteur emblématique, légende du heavy metal, se multiplient. D'Elton John à Rod Stewart, son influence a transcendé de nombreux genres musicaux. Bonjour Adrien Toffolé.
Bonjour.
Derrière le chanteur est né tout un mouvement culturel.
Oui, il faut imaginer l'Angleterre en 1970, loin de la bohème londonienne, à Aston, en banlieue de Birmingham. Immense cité industrielle dont l'atmosphère est capturée en ouverture du premier morceau de Black Sabbath cette année-là. C'est là qu'est né et a grandi Ozzy Osbourne, enfant dyslexique et perturbé qui échoue à l'usine dès ses 14 ans. Black Sabbath parle ainsi à une jeunesse prolétaire, comme eux à une époque où le rêve hippie se fane. La musique est donc sinistre, lourde, les paroles d'Ozzy Osbourne pleines de références au mystique, mais aussi à la réalité de la vie, sur des mélodies métalliques parsemées de tritons, des accords musicaux si lugubres que l'église catholique les considérait capables d'invoquer le diable. Ainsi est né donc l'un des genres musicaux et l'une des cultures les plus populaires au monde. Depuis, le heavy metal, dont Ozzy Osbourne, surnommé le prince des ténèbres, incarne tous les aspects et tous les excès, drogue et alcool sans limite, dans des sociétés américaines et européennes à l'époque encore puritaines. Et c'est dans les limbes qu'il participe activement à une seconde révolution culturelle au début des années 80. « La montée en puissance de la chaîne MTV, l'ère des clips diffusés en boucle, les images d'interviews et de coulisses de concerts sans filtre. Au début des années 2000, MTV produit même Bienvenue chez les Osborne, l'une des premières télé-réalités suivant quotidiennement le chanteur, sa femme et ses enfants. C'est incroyable d'avoir réalisé tout ça en étant un paumé tout droit sorti d'Aston, expliquait encore Ozzy Osborne en interview il y a 2 semaines, alors que sobre mais diminué par la maladie de Parkinson, il a réuni une dernière fois Black Sabbath pour un tout dernier concert à Birmingham.
Adrien Taufolet, merci. La météo avec des averses orageuses quasiment sur tout le territoire cet après-midi et les températures de 19 à Cherbourg jusqu'à 31 à Ajaccio.